Vieilles Branches, une production Nouvelles Écoutes en partenariat avec Radio Nova.
Elle pousse de toute façon. La jeune pousse, elle pousse. Mais la vieille branche, si vous trouvez qu'elle est belle, il faut éviter qu'elle se casse. Il faut éviter, il faut la protéger un peu plus.
Vous m'entendez, Francine ?
Pour cet épisode de Vieille Branche, je me suis entretenue avec une femme qui m'a fait beaucoup rire. Elle s'appelle Francine Leca, pionnière dans son domaine, même si ça l'intéresse pas trop d'en parler. Une volonté assez farouche qui a su vaincre pas mal d'obstacles et puis des douleurs sur lesquelles on ne s'attarde pas parce que pour avancer, faut mettre un pas devant l'autre. Toujours. Pour dire la vérité, la technologie n'étant jamais de mon côté, avec Francine, on s'est parlé deux fois. Ce qui explique, vous verrez, que parfois je sais exactement où il faut aller sans d'ailleurs toujours réussir. Je vous laisse découvrir ça.
Bon, c'est bien vos trucs, hein.
Bah, merci, ça me fait plaisir. Vous en avez écouté quelques-uns?
Oui, j'en ai écouté quelques-uns. Le dernier, c'est Reeves, là, c'est intéressant.
Oui, Hubert Reeves.
Bah, c'est des personnages intéressants.
Vieille branche, chez moi.
Vieille branche.
Une vieille branche.
C'est vraiment bon, une vieille branche.
Dans ma tête, j'ai toujours 18 ans.
Bonjour, vous écoutez Vieille branche. Pendant une heure, je vous emmène chez un homme ou une femme dont les souvenirs racontent notre histoire.
J'ai pris une fois de cocaïne, ça ne me fait rien.
De tout, de la
je suis encore désirable.
Évidemment que c'est important.
Récolter ces paroles aujourd'hui, c'est aussi précieux qu'absolument nécessaire. Parce que depuis 4 ou 5 ans, chaque année qui passe rend cette citation d'Antoine Gramsci plus limpide, parfaitement adaptée à la drôle d'époque qu'on vit. Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Et pour les terrasser, ces monstres, ou au moins les tenir à distance, voire même les apprivoiser, écoutez les mots de nos vieilles branches, qui forment ensemble notre mémoire collective, c'est un véritable bouclier.
Ah, vieilles branches !
Nous allons discuter sans tabou, mais avec bienveillance de leur vie, de l'amour, de la mort, de ce monde qu'ils ont connu et qui n'est presque plus, de leurs souvenirs d'enfants, de leur adolescence, de leurs amis, de leur passion pour l'art, la musique, les mots, la politique, du regard qu'ils portent sur l'époque, sur les jeunes, sur les combats qui se préparent. Parce que la beauté de l'âge, c'est qu'il libère la parole, et c'est ça que vous entendez dans Vieille Branche. Je suis Marie Misset, et aujourd'hui, je suis sur Zoom avec Francine Leca. Bonjour Francine Leca, merci de me consacrer du temps ce matin. Francine Leca, l'expression consacrée pour parler de vous, parce que le jeu de mots est très facile et qu'après tout il vous convient parfaitement, c'est une femme de cœur. C'est une femme de cœur. Première chirurgienne cardiaque, première chef des services de chirurgie cardiaque à l'hôpital Laennec, où vous avez commencé et où vous avez d'ailleurs eu, comme vous le dites vous-même, un véritable coup de foudre pour la chirurgie cardiaque. Puis, vous l'avez aussi été à l'hôpital Necker. Et là, votre vie a sans doute pris un tournant, à moins que peut-être la route qui vous y a mené soit logique et l'itinéraire imparable, le jour où vous avez lu un courrier, vous en receviez pourtant beaucoup, venu d'Iran d'un père désespéré qu'on ne puisse pas soigner la pathologie cardiaque de son petit garçon. Cette lettre, elle vous a poussé à créer très vite l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque pour faire venir en France et soigner aux frais de l'association des enfants du monde entier qui, dans leur pays, n'ont pas toujours accès à ces soins. Entre la réception de la lettre et l'arrivée des premiers enfants venus de Moldavie, je crois qu'il ne s'est pas passé un an. Vous aimez que ça aille vite, Francine Leca, et d'ailleurs, pour opérer les cœurs, il faut parfois être rapide. Mais avant d'y venir, j'aimerais savoir comment est-ce que vous avez vécu cette année en tant que médecin et en tant que femme d'un peu plus de 80 ans.
Je suis presque gênée de dire que je l'ai bien passé. Pourquoi ? Bah parce qu'effectivement, quand vous dites, quand on dépasse les 80 ans, on a moins besoin de sortir, de faire des tas de choses. Donc, le confinement n'est pas une punition. C'est le fait de rester à la maison et de pouvoir faire finalement énormément de choses qu'on n'avait pas eu le temps de faire avant. En plus, ayant un jardin, tout ça s'est passé fort facilement pour moi. Mais, bien sûr, autour de nous, directement autour de nous, il y a eu des malades atteints, il y a eu des drames. D'autre part, et nous y reviendrons, je pense, en ce qui concerne les patients de l'association, c'est-à-dire ces enfants qui viennent du bout du monde, ça a été l'année dernière, donc en 2020, un stop pendant près de 6 mois parce que ils ne pouvaient pas prendre l'avion, ils ne pouvaient pas venir, il n'y avait pas les autorisations, etc., etc. Et donc on recevait là encore des courriers, vous parlez de courriers, mais c'est important, nous disant que faire, l'enfant va de plus en plus mal et nous, on ne pouvait pas arriver à le faire venir. Donc, de ce côté-là, je l'ai évidemment vécu fort mal, mais il y a une différence entre ce qu'on vit soi et son confort, et puis comment le vivent les autres. Et comment le vivent les autres, c'est une chose évidemment très importante. Donc ma réponse est mitigée. Je l'ai vécu bien et moins bien comme tout le monde.
Et en tant qu'amoureuse de l'hôpital public, dans lequel vous avez passé toute votre carrière?
Ben, vous savez, je vois où vous voulez m'entraîner dans la discussion.
Non, je veux vous entraîner.
Mais si. Comment se comporte l'hôpital public? Alors, moi, déjà, je suis, et comme vous l'avez dit, issue de l'hôpital public. J'y ai passé absolument toute ma vie à l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Et j'ai toujours aimé cette institution, même si elle a forcément des travers. Je sais qu'elle est fortement accusée en ce moment parce que il y a eu beaucoup de flou dans les commentaires des médecins concernant cette épidémie. Mais personnellement, je suis plutôt indulgente que critique, en ce sens que cette épidémie a été subite, elle a été violente, et les gens ont fait au mieux de ce qu'ils pensaient faire. Alors, je ferai un seul commentaire, c'est que depuis le premier jour où j'ai su qu'un vaccin arrivait, j'ai dit « mais c'est extraordinaire ». On a mis une année pour trouver un vaccin, les scientifiques sont vraiment des gens formidables. Et quand j'entendais autour de moi des gens dubitatifs en disant « oh, je ne sais pas si je me ferais vacciner parce que ça a été trop vite pour trouver ce vaccin », ça m'a beaucoup énervée.
Je pensais plutôt à la fatigue des soignants, par exemple, l'immense fatigue au bout d'un an, là, par exemple.
Ben oui, la fatigue des soignants. Maintenant, vous savez, quand on est soignant, on sait ce à quoi on s'attend. La vie à l'hôpital, elle est parfois très rude. Les soignants, on le sait, sont mal payés. Les soignants hospitaliers sont insuffisamment payés. Ça aussi, c'est une chose que j'ai toujours dit. Et ils font, en général, un excellent travail. Alors maintenant, on leur a demandé beaucoup d'efforts. Ils sont fatigués, mais je dirais presque que c'est normal. C'est le métier qui veut ça. On sait ce à quoi on s'attend. Hein, quand on veut être médecin ou chirurgien, on sait qu'on sera réveillé la nuit, ce qui n'est pas toujours marrant. On sait qu'on aura des angoisses. On sait qu'on pourra écourter des vacances parce que si, parce que ça. Ça, il faut savoir à quoi on s'attend quand on est soignant. Être soignant, c'est quand même être au service des autres. Mais les soignants ne se plaignent pas, d'ailleurs. Hein. On parle d'eux, mais eux ne se plaignent pas. Ils font le job et ils le font bien.
On va en venir au tout début. Quels sont vos premiers souvenirs d'enfance, Francine Leca?
Pas de souvenirs particuliers. Une petite fille pas très sage, qui aimait par-dessus tout jouer, avec plein de projets, d'extravagance. Voilà, c'est mes souvenirs. Ce sont finalement des souvenirs de vacances, de gaieté, de joie de vivre, parce que j'ai eu une enfance extrêmement heureuse.
Avec des parents qui, vous le dites vous-même, ont été en tout cas une chance extraordinaire pour commencer dans la vie.
Bien sûr, c'est capital. Vous savez, tous les problèmes qu'on a aujourd'hui dans différents domaines sont en grande partie dus à l'éducation. Et ceux qui ont la chance d'avoir une bonne éducation, alors c'est quoi une bonne éducation? C'est évidemment de l'amour, de l'attention, et puis une direction à prendre pour l'enfant. L'enfant a besoin qu'on lui montre quel est le bon chemin à prendre. Et puis quand il va de travers, ce qui m'arrivait souvent, le remettre, comme on dit, sur le bon chemin. C'est ça l'éducation. Et quand on a une bonne éducation, on part bien dans la vie.
Votre père, vous lui avez écrit un jour, après avoir été renvoyé d'un deuxième lycée, je sais que vous n'aimez pas qu'on en parle constamment, mais c'est vrai que c'est rigolo, pour lui dire que vous alliez justement rentrer dans le rang. C'était quoi qui présidait à l'écriture de cette lettre? Plutôt de la peur, plutôt l'envie de vous rattraper, de lui plaire?
Un engagement. Quand on prend un engagement, je me suis dit, ça y est, il faut arrêter les bêtises maintenant, il a raison. Et il me demandait tout simplement de m'engager, de dire oui ou non. Si j'avais dit non, il ne m'aurait pas aimé moins. Mais il aurait dit, bon, tu veux continuer à faire tes conneries, vas-y, c'est ta vie, c'est ton droit. Il était comme ça. Mais il m'avait posé la question, effectivement, et j'ai dit OK. Et j'ai tenu. Parce que quand on a une parole, vous savez, il y a une phrase de mon père, j'ai beaucoup de phrases de mon père, une parole donnée, c'est comme une pierre jetée, ça ne revient jamais en arrière. J'ai toujours adoré cette phrase. Oui, il y en a d'autres, je ne les ai pas en tête, mais bon, si ça vient en cours de route. Mais quand on dit quelque chose, on le fait.
Dans cette série d'entretiens, j'ai parlé avec Gilles Clément, qui est paysagiste, et qui m'a dit que lui, il était un cancre absolu à l'école. Alors, je ne pense pas que c'était votre cas, mais vous étiez, disons, un peu dissipé. Avant de savoir ce qu'il voulait faire, Est-ce que ça a été comme ça que ça s'est passé aussi pour vous? Il y a eu un déclic, un moment où tout d'un coup, ça a pris sens, l'école, l'apprentissage?
Oui, je ne pourrais pas dire exactement à quel moment, mais il est vrai que j'ai commencé à travailler et à travailler beaucoup, alors que je travaillais très peu, à partir du moment où j'ai su que je voulais faire la médecine. Ça, j'ai bien compris que si on veut être médecin, il faut travailler. Donc, je l'ai fait.
Et ça, vous le dites que vous n'avez pas vraiment de souvenir de pourquoi ça vous est venu, mais vous aviez vraiment pas de modèle ni de
non.
rien autour de vous qui vous poussait à faire médecine.
Non, ça m'a pris comme ça. Mais je me rappelle plus que je ne me souviens plus de ce que j'ai pensé à l'époque, mais ce métier à un moment, il y a longtemps d'ailleurs. Je crois que c'était juste après mon bac, j'ai dit ça c'est un métier pour moi. Oui, j'ai envie d'aller soigner les gens.
Oui, il y avait au moins cette idée-là.
Il n'y avait pas d'exemple, je n'ai pas de médecin dans ma famille, il n'y avait pas d'exemple particulier, je n'ai pas de raison particulière.
D'ailleurs, ça ne peut pas être le désir de plaire aux autres qui vous a amené à devenir médecin. Au contraire, il fallait quand même une sacrée liberté d'esprit pour se dire que c'était au moins une possibilité pour une jeune fille à l'époque. Ou ça, c'est notre regard a posteriori.
Oh non, vous savez, ce n'était pas non plus l'époque de Néandertal, hein. Je sais que les femmes... Alors, je dis quand même toujours une chose, je l'ai répétée, mais j'aime bien cette phrase, je la répète encore. Quand je suis née, la chirurgie cardiaque n'existait pas et les femmes n'avaient pas le droit de vote. Donc, quand je dis c'est pas l'âge de Néandertal, c'est quand même un peu l'âge de Néandertal, puisque, rendez-vous compte, on n'avait pas le droit de voter. C'était en 1938. Donc, c'est vrai que quand j'ai voulu faire médecine, non, il n'y a pas eu de problème particulier. C'était quand même, c'était plus en 38, hein, il y avait quand même beaucoup plus de liberté. C'est pas comme l'époque de Marie Curie où on pourrait retracer toute l'histoire des femmes à travers la médecine. C'est vrai qu'elles ont mis beaucoup de temps à pouvoir atteindre les fonctions qui leur plaisaient. Mais moi, je suis arrivée au bon moment et je n'ai pas eu de problème.
Pile au bon moment, j'ai l'impression. Parce que l'année de votre naissance, c'est l'année d'une sacrée avancée, justement, dans la chirurgie cardiaque qui devient quelque chose alors qu'elle n'était rien.
Ben, elle est née en 38.
Oui, hein, en même temps que vous.
Et encore, en même temps que moi, et encore, je dis toujours, on n'allait pas à l'intérieur du cœur en 1938, on tournait autour, si j'ose dire. Et c'est en fait en 45, vraiment, qu'on a commencé à parler de chirurgie intracardiaque parce que c'est l'époque où est née la machine cœur-poumon artificielle qu'on appelle la circulation extracorporelle qui permet d'isoler le cœur le temps de l'opération, de remplacer le cœur comme un cœur artificiel.
C'est quand même extraordinaire. Et il y a aussi ces fameuses avant que vous arriviez, enfin que vous commenciez votre médecine et votre internat en chirurgie cardiaque, il y a aussi cette folle idée de... Comment ça s'appelle ? De chirurgie croisée ?
Ah oui, la circulation croisée. Oui, ça c'est une histoire incroyable. Le père étendu sur une table, le fils que l'on devait opérer étendu sur une table à côté, et la circulation, donc les battements du cœur du père assuraient la circulation sanguine chez l'enfant. Oui. Moi aussi, quand je lis ça, je dis vraiment l'homme n'a peur de rien. Hein. C'est comme ça qu'on progresse en permanence. C'était fou.
Et on ne s'inquiétait quand même pas autour de vous, de votre futur mariage, de votre vie de femme?
Non.
Non, vos parents vraiment n'étaient pas sur ce mode-là?
Non.
Je sais que ce n'est pas votre sujet préféré, on ne va pas s'y éterniser, mais ce rôle de pionnière sur votre parcours quelque part un peu exceptionnel en dépit de votre genre, c'est un rôle que vous avez été consciente d'endosser assez tôt?
Non. Oui, réponse rapide, brève, synthétique, non.
Voilà,
c'est un chirurgien. Un chirurgien cardiaque, c'est un chirurgien cardiaque. Ce n'est pas une femme ou un homme chirurgien cardiaque, c'est un chirurgien cardiaque. Pour l'opérer, pour le cœur de l'enfant qu'on va opérer, il n'en a rien à faire de savoir si c'est un homme ou une femme. Ce qu'il faut savoir, c'est s'il opère bien et s'il va bien s'en sortir.
Et justement, ce coup de foudre pour la chirurgie cardiaque, pour le coup, alors que vous dites que vous n'avez pas vraiment de souvenir de pourquoi la médecine, même d'enfance très précis. Pour le coup, là, c'est très net dans votre esprit, cette première opération à laquelle vous assistez.
Ah oui, oui, ça, alors par contre, je n'ai plus la date, mais par contre, je revois le moment. Ça a été quelque chose de fantastique. À l'époque, donc, j'étais interne. Quand on passe l'internat, on retient... Bon, c'est à l'époque, ça a changé maintenant. On retenait sa quatrième année d'internat dans les hôpitaux et j'avais envisagé de faire de la chirurgie de la main. J'avais donc retenu ma quatrième année chez Monsieur Dufour-Mantel qui faisait de la chirurgie de la main. Je trouvais que c'était beau, la réparation. J'ai toujours aimé la chirurgie réparatrice. Et puis, en première année d'internat, on ne retient pas, on va ce qu'on appelle au choix, évidemment. Les plus anciens choisissent en premier, les plus jeunes choisissent en dernier. La chirurgie cardiaque était dans les derniers choix. Donc, je prends la chirurgie cardiaque en me disant, ça va quand même être très intéressant. Et effectivement, premier jour, premier passage dans la salle d'opération. Et quand j'ai vu qu'on arrêtait ce cœur, qu'on le réparait et qu'il se remettait à battre. Mais instantanément, j'ai dit, bon, c'est pas compliqué, c'est ça que je vais faire.
C'est quoi ? C'était la magie de cette pulsation ?
C'était la magie, oui, on peut appeler ça comme ça. Arrêter un cœur, le réparer et il se remet en route, avouez que c'est magique. Les miracles, il y en a tous les jours. Moi, je dis quotidiennement, c'est une chirurgie miracle puisque vous avez un enfant qui est dans un état souvent très mauvais, c'est des enfants bleus, c'est des enfants essoufflés, c'est des enfants qui peuvent pas aller à l'école, qui peuvent pas jouer, qui sont terriblement handicapés par leur malformation cardiaque et qui ont une espérance de vie brève en général. Et une vie de mauvaise qualité, et ils passent quelques heures sur une table d'opération et repartent dans la vie. C'est l'exemple typique du petit bonhomme qui est arrivé tout bleu et qui, 15 jours après, il est tout rose, il a grossi 2 kilos, et il arrive en serrant son ballon de foot dans les bras. C'est-à-dire que c'est une transformation de la vie. Un de mes amis a dit que c'est une seconde naissance, et j'ai trouvé que c'était un très joli mot.
Ça me fait penser, quand je vous entends décrire un cœur, à la raison pour laquelle vous avez appelé votre association mécénat, ou le mécénat, c'est pour des œuvres d'art, normalement. Parce que vous dites un cœur d'enfant, mais finalement un cœur tout court. Il y a de la beauté, en tout cas, vous voyez une beauté.
Absolument, c'est un cœur, c'est une œuvre d'art, excusez-moi.
Dans un livre qui vous est consacré, qui est sorti il y a quelques années maintenant, qui s'appelle « Soigner les cœurs », il y a quelques cas qui sont répertoriés comme ça d'enfants que vous pensiez condamnés et dont le cœur est reparti sans que vous puissiez réellement l'expliquer. Est-ce que dans ces moments-là, on se dit qu'il y a un truc plus fort que la médecine, comme une certaine rage de vivre chez certains patients, ou est-ce qu'on se dit que c'est juste qu'on n'a pas encore tout compris à comment ça fonctionnait ?
Bon, c'est les deux, mon général. Les deux, c'est-à-dire que... il faut pas dire non plus qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Quand on fait une opération de chirurgie cardiaque et que malheureusement, ça se termine mal, c'est rare, il faut quand même le dire. Aujourd'hui, c'est rare parce que, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais la chirurgie cardiaque, dans les pays comme la France, les pays qu'on appelle développés, a fait quand même des progrès considérables. Et pour vous situer un petit peu les choses, toute cardiopathie confondue, y compris les plus graves, celles qu'on opère chez les nouveau-nés, la mortalité moyenne dans la plupart des services est aux alentours de 2-3%. Vous voyez. Alors, bien sûr, c'est toujours affreux de perdre un malade, mais c'est pour dire quand même que la chirurgie cardiaque est assez sûre. La chirurgie cardiaque, chez l'enfant en particulier, est assez sûre et donne de magnifiques résultats. Alors, parfois, effectivement, il y a l'échec. Alors, l'échec, on s'y attend quand même le plus souvent, c'est-à-dire qu'on tente des opérations de plus en plus difficiles et on a quand même effectivement dans certains cas un cœur qui soit parce qu'il n'est pas parfaitement réparé, soit parce que la réparation a été longue et pendant ce temps-là le cœur s'est fatigué, de temps en temps et très rarement heureusement, le cœur repart pas ou repart mal, c'est-à-dire que le malade ne décède pas sur la table d'opération, mais peut décéder un petit peu plus tard en réanimation. Je voudrais pas que l'on pense que les échecs sont fréquents. Dieu soit loué, ils sont rares.
Mais quand l'issue est heureuse, Francine, et qu'on s'y attendait pas.
C'est l'autre version. Parfois, on se dit, mon Dieu, c'est épouvantable, ça va pas aller, les suites sont compliquées, comment on va s'en sortir? C'est des assistances circulatoires et respiratoires pendant des jours. On est pessimiste encore que l'on... Moi, je ne suis jamais pessimiste. Je pense toujours que la vie est au bout. Mais parfois, on est mal, comme on dit, on est mal barré. Et puis, on s'en sort. Petit miracle, est-ce qu'on peut appeler ça comme ça? Je ne sais pas. Bonne nature qui a pris le dessus, un cœur résistant. Parce que j'insiste toujours sur le fait que chez les enfants, dans la plupart des cas, le cœur lui-même, le muscle cardiaque est de bonne qualité. C'est pas le cœur qui est fatigué, comme chez les personnes plus âgées. Le plus souvent, heureusement, la contractilité, c'est-à-dire la force du cœur, est intacte. Donc, quand on a bien réparé, on a toute chance, même si c'est compliqué, on a toute chance de bien s'en sortir.
Il y a Hubert Reeves, dans une interview précédente, qui me disait à quel point, pour lui, ce qui était le plus fascinant, peut-être, dans la science qu'il pratique, c'est la permanence de la vie, enfin, en tout cas, la force de la vie, quoi, de l'élan vital. Est-ce que c'est quelque chose aussi qu'on observe quand on est comme ça au plus près de ce qui peut être emblématique ou symbolique de la vie, c'est-à-dire le cœur humain? Est-ce qu'on est impressionné par sa force? Ouais.
Oui, bien sûr. Force et fragilité. Les deux réunis, c'est souvent lié d'ailleurs. En particulier, moi je parle toujours du cœur des enfants. Ça peut lâcher prise parfois pour pas grand-chose, et puis à l'inverse, ça va se bagarrer, ça va vaincre des conditions épouvantables. Oui, oui, il y a bien sûr une force qui nous dépasse. La médecine sera toujours dépassée par toutes ces notions de vie, de force, bien sûr. Mais si l'on revient à des notions pragmatiques et plus terre-à-terre, la chirurgie cardiaque, j'ai dû le dire au moins 3 fois, mais
c'est
une quatrième fois, parce que j'aime bien dire ça.
Bah, c'est agréable de faire une spécialité où les choses marchent quand même, j'imagine.
Oui, oui. Et puis, tous les jours un peu mieux, c'est-à-dire on progresse, on comprend des choses. C'est sûr, je vous ai dit à quel point la chirurgie cardiaque est récente, elle a 80 ans à peu près. Les progrès fantastiques qu'elle a fait et qu'elle continue à faire, oui, bien sûr.
Francine Leca a donc mené une carrière brillante, elle est devenue chef de service, une première encore pour une femme, avant de se lancer dans ce qui est sans doute l'aventure de sa vie, mécénat chirurgie cardiaque. Et une fois que l'entretien était terminé, pour m'expliquer pourquoi ça n'était pas plutôt les médecins qui se déplaçaient pour soigner les enfants, elle m'a répondu que les équipements étaient meilleurs en France et qu'une œuvre d'art, ça ne se saccage pas, ça ne mérite pas l'à peu près. En 1995, vous exercez depuis déjà longtemps, vos journées sont très très pleines. Est-ce qu'on s'ennuie parfois quand on fait toujours les mêmes opérations, même si c'est des questions littéralement de vie et de mort? Non.
L'ennui est un mot que je ne connais pas. Jamais, 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 jamais. Comment voulez-vous vous ennuyer quand vous faites ce métier? Non, jamais. On est fatigué parfois, ça c'est autre chose. Mais ennui, non.
Et hors travail non plus? L'ennui, non? Non.
Non, absolument pas. Non, non. La vie est trop courte, au contraire. Il y a tellement, tellement de choses à faire.
En tout cas, c'est cette année-là, en 1995, que vous recevez une lettre qui lancera tout le destin de cette association que vous avez créée, Mécénat Chirurgie Cardiaque. Vous recevez une lettre d'un papa iranien, je pense, oui, d'un papa iranien, qui vous demande si vous pouvez sauver son fils.
Effectivement, il y a 25 ans, on décide, avec mon filleul Patrice Roinette, qui n'est pas médecin, mais qui est... un homme qui savait lever des fonds, parce que on va parler d'argent, bien sûr, on décide de créer cette association Mécénat Chirurgie Cardiaque pour pouvoir faire venir en France et les opérer de leur cœur malade, des petits-enfants qui ont la double malchance de naître avec une malformation cardiaque et d'habiter dans un pays où on ne peut pas leur offrir de soins pour des raisons financières, techniques, politiques, que sais-je. Il y a des endroits où des enfants meurent parce qu'il n'y a pas de chirurgie cardiaque pédiatrique.
Et l'idée vous trotte dans la tête un certain temps après avoir reçu cette lettre, où il y a comme un espèce de truc assez automatique où vous dites, mais en fait, je peux le faire. Peut-être pas pour cet enfant-là, mais je peux le faire.
Oui, non, non, ça a été rapide. Ça a été un déclic très rapide. Ça n'a pas trotté longtemps dans la tête. Je me suis dit, on a des compétences magnifiques en France. Il y a des enfants, on pourrait les prendre, les opérer, ils repartiraient chez eux guéris, ou du moins pour certains d'entre eux, sinon guéris complètement, extrêmement améliorés. Et donc, on va mettre ça sur pied. Non, c'est une idée qui est venue rapidement.
Vous êtes quelqu'un qui aime quand ça va quand même vite, hein. On peut pas, oui. On va pas mentir.
On va dire ça marrer. On va dire j'aime bien quand ça va vite.
Entre cette lettre et le moment où vous recevez deux premiers enfants, qui sont des petits enfants moldaves, il y a moins d'un an qui se passe, 9 à 10 mois.
Ça a été très vite. C'est donc on avait un résident chirurgien de Moldavie et donc il m'a présenté son ministre de la Santé quand il est passé à Paris et très vite on a mis ça en route très très rapidement. Quant à ce fameux ministre de la Santé, je lui ai dit combien coûtait réellement une intervention de chirurgie cardiaque. J'ai cru qu'il allait faire un malaise, tellement la somme était 10 fois, 20 fois, 30 fois supérieure à ce qu'il aurait seulement pu imaginer. C'est très cher, la chirurgie cardiaque. Donc, c'était absolument impensable d'envoyer classiquement des malades se faire opérer en France. Donc, c'est les premiers qui ont eu recours à l'aide de mon association qui prend en charge complètement ses enfants pour les faire venir, pour les opérer et pour les renvoyer chez eux guéris.
Mais c'est des montagnes d'argent, ça, Francine, puisque comme on le répète peut-être pas beaucoup, mais c'est pas la sécurité sociale française qui prend en charge ses enfants, c'est l'association.
C'est normal d'ailleurs, c'est pas la sécurité sociale française qui prend en charge, c'est une association qui a été créée. Il y a des milliers, vous savez, les Français sont très généreux, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'associations qui sont aidés par les Français, avec des défiscalisations. Donc, il faut dire aussi que le gouvernement aide aussi ces associations. Et le but de ces associations, c'est quand même de se débrouiller par elles-mêmes. C'est bien évident qu'on va pas prendre l'argent de la sécurité sociale. D'ailleurs, on ne le pourrait pas, même si on le voulait. Donc, tout le financement est assuré par nous, à nous de trouver, et nous avons eu la chance de rencontrer des directeurs d'hôpitaux intelligents, compréhensifs, qui ont fait des efforts et qui nous ont accordé ce qu'on appelle des forfaits, c'est-à-dire qu'on sait à l'avance combien va coûter une intervention. Alors que si on n'a pas ces forfaits, actuellement, c'est la télé. Oui. Je ne veux pas rentrer dans les détails techniques et financiers, mais c'est pour vous dire qu'une opération, si elle est longue, si elle est lourde, elle coûte horriblement cher. Disons qu'une opération de chirurgie cardiaque moyenne, classique, qui se passe bien, c'est quand même une quarantaine de milliers d'euros.
En tout cas, la composante peut-être essentielle de mécénat chirurgie cardiaque, c'est les familles d'accueil, parce que ce qu'on n'a peut-être pas dit jusqu'ici, c'est que c'est des enfants qui sont sans leurs parents, qui voyagent sans leur famille, qui sont parfois tout petits, et qui sont accueillis parfois jusqu'à quelques mois dans des familles qui vont vivre tous les rebondissements de la vie de cet enfant. Ils vont avoir arrivé un enfant malade, parfois très mal, le voir revivre parfois, et dans des cas extrêmes et qui doivent être extrêmement difficiles à gérer pour eux, ils voient aussi parfois des enfants mourir chez eux.
Oui, vous avez tout résumé, Marie, c'est exactement ça. Vous voyez ce que ça représente d'avoir un petit enfant, la somme de soins, d'attention, d'affection, de tout. Eh bien, les familles d'accueil donnent tout ça à ces enfants qu'ils reçoivent. À partir du moment où ils vont les attendre à l'aéroport, souvent très tôt le matin, et que l'accompagnateur d'Aviation Sans Frontières, une très très belle association, où les navigants justement font des voyages pour aller chercher ou ramener des enfants, nos enfants, et on travaille avec eux depuis le début. Et donc, c'est véritablement à l'aéroport que le navigant d'Aviation Sans Frontières remet le petit enfant à sa famille d'accueil, et à partir de cet instant-là, pour cette famille, cet enfant, c'est leur enfant. C'est leur enfant. Avec tout le soin, tout l'amour, toutes les émotions qu'ils vont avoir au moment de l'opération, et vous l'avez souligné, la joie qu'ils ont de le voir après l'opération en pleine forme, et rarement, heureusement, mais ça arrive, la peine lorsque l'enfant ne survit pas. Donc, ces familles d'accueil sont des gens tout à fait exceptionnels. Sans eux, on ne pourrait évidemment rien faire parce que nous ne faisons pas venir les familles et vous comprenez pourquoi, ce serait absolument impossible. Donc, les enfants viennent seuls, mais croyez-moi, ils n'en souffrent pas. Moi qui les vois en consultation préopératoire, je vois quand ils arrivent dans les bras de leur famille, ils sont en France depuis un jour, deux jours, trois jours, parfois même depuis quelques heures seulement, et ils sont accrochés à leur maman ou à leur papa d'accueil, exactement comme si c'était leur propre maman. Un enfant s'adapte extrêmement vite. À partir du moment où il sent qu'il est aimé et qu'il est choyé, il est heureux.
Et c'est des émotions quand même qui sont folles, parce que les histoires qui sont racontées dans Soigner les cœurs et que j'ai pu lire par ailleurs, c'est parfois des miracles d'avoir réussi à faire venir l'enfant entre le moment où vous recevez, je sais pas, un premier dossier médical et le moment où il arrive sur le sol français, entre le moment où vous le soignez. Enfin, je veux dire, c'est des joies, c'est des peines. Enfin, ça me semble des émotions d'une intensité folle. Et je me demandais, de manière générale, je me demande comment les médecins gèrent ça. Et alors vous, je me demande, mais encore plus, comment est-ce que vous gérez ces émotions? Est-ce que vous avez mis en place des sortes de techniques pour pas vous attacher ou pour pas se ressentir?
Mais non, il n'y a pas de technique. Vous me parlez de moi, mais moi, je ne suis pas un personnage important dans cette affaire. Ce qui est important, c'est la famille qui accueille et qui va garder cet enfant. Envers et contre tout, pendant un mois et demi, deux mois, pendant le confinement, il y a des enfants qui sont restés cinq mois, six mois dans leur famille d'accueil puisqu'ils ne pouvaient pas repartir, il y a eu le confinement.
Mais vous, Francine, vous noyez le poisson dans l'eau.
Je noie plus le poisson, mais parce que vous voulez me faire parler de moi, je n'ai que du bonheur dans cette affaire-là. Parce que je vois l'enfant arriver, quand je les vois pas tous en consultation préopératoire, surtout quand ils sont en province, mais j'essaye le plus souvent de les voir avec leur famille, et je vois souvent arriver des enfants fatigués, dénutris, ils mangent mal, ils pleurent. On les voit, ces petits bouts, qui s'endorment parfois pendant la consultation, ou ils sont fatigués dans l'ensemble, très fatigués. Et je les revois, on va dire un mois et demi après en moyenne, c'est-à-dire avant leur départ. Et quel bonheur de voir dans la même pièce de consultation rentrer une famille avec un petit bonhomme. Souvent, il ne marchait pas avant, il marche. Qui commence, pour les plus grands d'entre eux, à parler un peu français, mais comme dit la famille, oh, il comprend absolument tout, c'est-à-dire en un mois et demi, il a appris à comprendre le français s'il ne le parlait pas avant. Il a grossi de 2-3 kilos, je dis toujours, c'est la fierté des familles d'accueil, ils arrivent en disant, ah, il a pris 3 kilos, parce qu'avant, il ne mangeait pas, et là, il mange. Et le gamin est souriant, s'il était bleu avant, il est rose, s'il était essoufflé avant, là, il court partout dans la salle de consultation. Comment voulez-vous que je ne ressente pas un très grand bonheur?
Mais parfois ça, pas forcément l'opération, mais de ne pas réussir à faire venir un enfant qu'on pourrait sauver ou de...
Ah ben, Marie, oui, ben oui, tout roule pas dans la vie, tout roule pas en permanence.
J'essaie de vous faire dire, parce qu'en toute transparence avec nos auditeurs, on s'est déjà parlé avec Francine, c'est de vous faire dire un truc que vous m'avez dit la dernière fois et qui m'a surpris, en fait, parce que je pensais qu'on mettait en place des trucs de mise à distance, je pensais qu'on mettait en place des choses pour ne pas trop ressentir d'émotions, et vous m'avez dit, non, les émotions, on les accueille.
Bien sûr, mais l'émotion, Marie, on en a déjà parlé de l'émotion, pour moi c'est un maître mot, un des maîtres mots de la vie, il y en a plusieurs comme ça, et l'émotion est un de ces mots-là. Il n'y a pas de vie sans émotion. Réfléchissez à cette phrase profonde que je ne vais pas développer. Et oui, bien sûr, on ne peut pas. Je ne comprends pas les gens qui disent « je marme, je me blinde, je me… » Mais c'est quoi ça? C'est impossible. Bien sûr qu'on a des émotions, mais, et heureusement. Alors, bah, évidemment, faut les dominer. Faut pas piquer une crise de larmes ou d'hystérie en salle d'opération. Vous imaginez le pompier tout d'un coup qui dit « oh là là, c'est épouvantable ». Non. Non, il faut dominer ces émotions, mais on les a. Mais on les a, bien sûr. Bien sûr, c'est sûr qu'à un moment, pour un chirurgien, et ça arrive à tout chirurgien, à un moment, ça se passe mal, ben, c'est d'une intensité extrême, mais il faut absolument le dominer, parce qu'il faut continuer l'opération le mieux possible. Mais on la ressent, l'émotion, bien sûr. On n'est pas
des robots comme parfois.
Robots.
Vous avez, Francine, été aussi malade de votre côté. Vous avez eu un cancer quand vous aviez une quarantaine d'années. Je sais que vous n'aimez pas vous apesantir sur ces moments douloureux, mais vous êtes passée du côté du patient. Et ce que j'aimerais que vous développiez avec moi, c'est cette relation, que vous me parliez de cette relation au médecin de l'autre côté, avec toute la confiance que ça implique. C'est-à-dire que pour qu'une relation patient-médecin marche, il faut qu'il y ait de la confiance. Et vous avez ressenti les deux bouts.
Oui, oui, absolument. Mais ça, c'est. On parlait tout à l'heure de l'émotion. Un de mes deuxièmes mots importants, c'est la confiance, bien sûr. Comment vivre sans confiance? Comment toujours tout remettre en question? Comment vouloir être juge de tout? Dans la vie, chacun a sa spécialité, a sa compétence. Et si on est amené à travailler avec cette personne, moi, je vous fais confiance, là, Marie. Je ne sais pas ce que vous en ferez de ce bavardage entre nous, mais voilà, j'ai accepté. Et à partir du moment où j'ai accepté, et maintenant que je vous vois en face de moi, j'ai parfaitement raison d'accepter parce que vous êtes très sympathique, avec des beaux yeux clairs, un joli sourire. Je sais que j'ai bien mis ma confiance en vous disant tout ce que vous voulez que je vous dise. Donc la confiance, c'est très, très important. Et dans le domaine de la médecine, comment voulez-vous vous faire soigner par un médecin ou un chirurgien dans lequel vous n'avez pas confiance? Et comment voulez-vous qu'un médecin ou un chirurgien soigne quelqu'un s'il ne sent pas que ce quelqu'un met en lui sa confiance? Donc, c'est une réciprocité. J'ai toujours dit que médecin-malade, c'était comme un couple.
Mais est-ce qu'on a moins de temps aujourd'hui? Vous avez continué à opérer jusqu'à très tard. Est-ce qu'il y a moins de temps pour cette relation avec le patient?
Oui, bien sûr. Alors, ça, c'est un point très important. Le médecin est souvent débordé et accorder du temps à son malade, c'est un véritable luxe. Mais il faudrait qu'il puisse s'offrir ce luxe, qu'ils puissent tous les deux s'offrir ce luxe. On ne peut pas faire une consultation en 10 minutes, ce n'est pas possible. Et j'ai toujours dit, il faut bien payer les médecins pour qu'ils puissent, au maximum bien sûr, dissocier leur travail ou leur office, j'aime pas appeler ça un travail, mais leur mission vis-à-vis de leurs patients, sans penser à l'argent. Vous allez me dire que c'est peut-être une ambition un peu importante, ça, mais sans dire, ben voilà, aujourd'hui, je vais faire tant de consultations, je vais gagner tant. Ça doit pas. C'est ce que je dis toujours aux jeunes étudiants en médecine, quand ils viennent me parler, je leur dis, c'est un métier fantastique, mais ne le faites pas pour devenir riche, ne le faites pas pour. En pensant à l'argent, il faudrait qu'on soit, que ce ne soit jamais un problème. Malheureusement, ça l'est. C'est pour ça que je dis toujours, faut mieux payer les médecins, mieux payer les soignants. Bon, ça, c'est une parenthèse que je referme.
En tout cas, il y a parfois des relations. Enfin, moi, j'ai la chance de pas avoir une histoire médicale très forte ou très douloureuse, donc j'ai pas connu grand chose. Ma seule opération dernièrement, ça a été mon accouchement, et le sentiment que j'ai eu pour mes soignants, ça relève quasiment de l'amour. C'est-à-dire que quand ça se passe bien, la relation est forte en émotion, enfin en tout cas en intensité.
Bien sûr qu'elle est forte. Hein. Quand on est très mal en point et qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de vous, ça devient la personne la plus importante du monde, bien sûr. Et en particulier, je dirais que le personnel, les infirmières, c'est peut-être celles qui sont en tête de classement, plus encore que le médecin ou le chirurgien. L'infirmière, moi aussi, quand j'étais opérée, je suivais le rythme des infirmières. Je disais, demain, c'est un tel en chic. On lit, comme vous dites, des liens d'amour. Oui, on n'en est pas loin. C'est vrai que l'infirmière est très, très, très proche du patient. Et le médecin doit l'être aussi. Alors évidemment, c'est une question de temps, mais il faut essayer autant que faire se peut de donner du temps et donner de l'écoute.
Je trouve ça intéressant parce que un des maîtres mots, et je pense qu'en même temps ça paraît évident, c'est le temps. Je trouve que vous avez un rapport au temps qui est assez particulier parce que vous aimez quand ça va vite. En même temps, j'imagine qu'une opération de chirurgie cardiaque, c'est beaucoup de patience parce qu'il faut être absolument méticuleux et patient. Je sais que vous aimez la pêche à la mouche, qui demande aussi beaucoup de patience. Il y a ce temps qu'on prend, ce temps qu'on n'a pas envie de perdre.
Mais je comprends tout à fait votre question, Marie. C'est vrai que j'ai un caractère un peu paradoxal. Je suis extrêmement impatiente et en même temps, je peux être extrêmement patiente. L'un n'empêche pas l'autre. Ça paraît difficile à expliquer, mais c'est vrai qu'il y a plein de moments où je vais au restaurant et on met une demi-heure avant de me servir. Ah, je suis dans un état de nervosité absolument incroyable. Les gens avec lesquels je suis me donnent des coups de pied sous la table. Calme-toi, calme-toi. Je ne sais pas pourquoi. Je ne peux pas supporter d'attendre quand je vais au restaurant. Je voudrais que, sitôt assise, j'ai la carte et sitôt choisie, j'ai le plat devant moi. Bon, ça, c'est une impatience un peu ridicule, mais je suis comme ça pour un certain nombre de petites choses de la vie. Mais effectivement, à l'inverse, au cours d'une opération, s'il faut être minutieux et patient, je le suis infiniment. Avec un malade, quand je vois quelqu'un qui vient me voir et avec lequel je dois parler, je crois pouvoir dire que je suis extrêmement patiente. Ben oui, non, mais c'est deux choses différentes. On peut être patient et impatient en fonction des éléments, des événements. Voilà. On est tout individu a une dualité. Il n'est pas que l'un ou que l'autre. Non, il faut être patient quand on fait de la chirurgie. Si on est, on envoie les instruments balader au bout de 10 minutes, ça va pas du tout, ça.
Francine, vous avez perdu la garde de vos enfants au moment du divorce quand vous étiez jeune. À un moment, on la donnait beaucoup systématiquement, quasiment aux femmes. Parce que vous étiez une femme qui travaille et qui travaillait beaucoup, c'est quelque chose où vous gardez encore de la rancœur. Je sais que ça a été très douloureux sur le moment, mais est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui reste un truc un peu que vous n'avez pas envie de
faire ? Non, ça a été très douloureux sur le moment et je n'ai aucune rancœur. D'ailleurs, je ne suis pas rancunière. Je peux être brusque, je peux être un peu cash, comme on dit parfois. Colérique, non, je ne suis pas colérique, mais je ne suis surtout pas rancunière, peut-être pas assez d'ailleurs.
Ça passe, il faut avancer. Mais est-ce que vous avez quand même l'impression de vivre une grande injustice à ce moment-là ?
Grande injustice, mais bon, on s'en remet. Hein. On se remet de... Ouais. Heureusement, on parlait de la force de l'être humain, il se remet pratiquement de tout.
Oui, mais je pense que comme vous dites, on se remet tous si on a accepté à un moment de ressentir les émotions qu'on a ressenties. Parce que si on n'a pas accepté, elles ressurgissent d'une manière ou d'une autre.
Oh, mais ça c'est très fin ça, Marie, ce que vous venez de dire.
Orso, votre fils, je le dis avec grande joie parce que c'est le prénom de mon fils aussi, Orso, votre fils, il travaille aujourd'hui avec vous. Est-ce que vous avez eu l'impression, la sensation de rattraper un peu du temps perdu ?
Du temps perdu, non. Disons que j'ai des relations merveilleuses avec mes deux enfants et ça, c'est fantastique. Et puis le passé, c'est le passé. Il y a eu des moments difficiles. Mais quel individu n'a pas, pour des raisons X ou Y, des moments difficiles dans sa vie, hein ? La vie, c'est... Tout le monde le sait, vous êtes toute jeune, mais il y aura des épreuves, il y aura des moments difficiles, et ben, la vie continue.
Si j'ai posé la question de la gestion des émotions à Francine Lecas, c'est parce que les histoires de mécénat sont assez folles. Il y a cette mère qui vend ses seuls biens pour traverser la Mongolie à pied dans l'espoir de sauver son enfant. Des gosses où ça marche presque, 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 mais où à la dernière minute, l'espoir s'efface. Bref, de véritables montagnes russes. Et j'imagine toujours qu'il faut être bien armé pour pouvoir accompagner correctement les gens qu'on veut aider. Un des aspects fondamentaux de l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque, c'est d'ailleurs la mise en place très rapide d'un suivi scolaire des enfants soignés une fois qu'ils rentrent chez eux. Ils ont aussi mis en place un programme de formation pour les médecins étrangers qui voudraient se spécialiser. Et ça leur fait un réseau dans le monde entier qui leur envoie des enfants mal au point.
Enfin, cette partie associative de votre vie, je sais qu'elle a peut-être pu prendre un autre tournant au moment où vous avez vu votre maman vieillir. Je ne sais pas si elle est décédée depuis 2016.
Oui, elle est décédée. Oui.
Vous avez vu votre maman vieillir et vous avez commencé à vous intéresser à ce que vivaient les personnes âgées. Et je vous ai entendu dire quelque chose qui me semble très juste maintenant, qui est que toutes ces associations pour enfants, c'est formidable, mais qu'il faudrait maintenant mettre en place des associations pour accompagner humainement les personnes âgées, pour être auprès d'elles.
Oh oui, j'ai dit ça parce que c'est vrai qu'on est toujours très ému par un petit enfant. Et il y a, quand j'étais chef de service à la ENEC, puis à Necker, il y avait beaucoup d'associations magnifiques d'ailleurs qui venaient pour s'occuper des enfants, pour faire jouer les enfants. Mais il y en avait beaucoup. Et puis, c'est vrai qu'à un moment, j'ai dit, écoutez, c'est super, mais maintenant, pour les enfants, ça va, faudrait peut-être s'occuper des plus vieux. C'est moins sexy, hein, un enfant, c'est adorable, un petit enfant qu'on prend dans ses bras, une vieille personne, c'est... Mais c'est vrai que... moi, je suis très. Alors, vous me demandez qu'est-ce qui peut m'émouvoir. Eh ben, c'est vrai que quand je vois des images de personnes âgées, et pourtant j'en fais partie, hein, mais on ne vieillit pas à la même vitesse. Il y en a qui, au point de vue date de naissance, ne sont pas trop vieux encore, mais qui vont pas bien, qui sont fatigués, etc., etc. Et quand vous voyez des assemblées dans les iPads ou autres. De personnes âgées, c'est pas les iPads d'ailleurs, c'est
l'iPad. Dans les iPads.
Oui, c'est mon anglicisme qui prend le dessus. Elles sont, et puis j'ai visité aussi parce que j'ai eu autour de moi des gens que j'allais voir, etc. Et vous vous rendez compte que ces personnes sont très bien soignées en général, avec des infirmières adorables et des gens qui s'occupent d'eux. Mais il en ressort quand même une tristesse, quelque chose qui vous serre la gorge. L'enfant, c'est, même s'il est malheureux, même si il a l'avenir devant lui. Et d'ailleurs, le but de Mécénat, c'est justement de donner un avenir à ses enfants.
Ça peut être d'ailleurs que quelques années. Enfin, il y a des enfants que vous allez soigner.
Mais bien sûr, peut-être qu'il mourra jeune et que ça sera terrible, mais lui donner quelques années, de toute façon, on dit que quelques années, d'une vie de qualité. C'est ça qui est important, finalement. C'est pas, je dis toujours, c'est pas la quantité, c'est la qualité de vie. Et c'est vrai que bon, il y a des personnes âgées qui vivent bien et qui sont heureuses et tout se passe bien, mais parfois vous avez le cœur très serré. Enfin, moi, c'est une chose qui me serre le cœur. Vous allez dire que faire, parce que on fait déjà beaucoup, vous savez, on fait déjà beaucoup.
Et puis les gens font comme ils peuvent. On nous parle beaucoup de notre société individualiste où on s'occupe pas des personnes âgées, mais il me semble à échelle personnelle que les gens font.
Mais oui,
pour les gens qu'ils aiment.
Mais bien sûr, ils font ce qu'ils peuvent. Et encore une fois, ces maisons de retraite, non seulement je les condamne pas, mais je trouve qu'elles sont. J'en ai visité un nombre relativement important, et vraiment, c'est bien tenu. Le personnel est gentil. Les patients, oui, c'est pas les patients. Comme disait Jacques Brel, mourir la belle affaire, mais vieillir. Oui, vieillir. Et alors, est-ce qu'on peut faire des choses pour eux? Oui, forcément. À une époque, quand maman était très âgée et malheureusement, elle avait toute sa tête, mais malheureusement, elle ne voyait plus, elle n'entendait plus, ce qui était quand même beaucoup pour elle. J'aurais voulu créer un poste de radio spécial pour très vieilles personnes. Vous savez, des touches. Aujourd'hui, les postes de radio, même les plus simples, vous perdez dans les touches. Et une vieille personne, il faut que ce soit très simple et dans la manipulation. Donc, il faut un poste de radio avec 4 touches, un arrêt-marche. Et puis, il faut une touche pour écouter des informations. Parce que les personnes âgées ont besoin d'être dans la vie et de savoir ce qui se passe. Mais une information distillée de façon compréhensible. Parfois, moi-même, vous me direz que je fais partie des vieux maintenant, mais parfois, moi-même, les journalistes, j'arrive à peine à comprendre ce qu'ils disent ou ce qu'ils écrivent, c'est compliqué. Donc, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Donc, une information claire, compréhensible, parler tranquillement. Les jeunes parlent très vite aujourd'hui, vous l'avez remarqué, c'est normal. Et un vieux, il a soit parce qu'il entend moins bien, soit parce que, bon, il faut parler tranquillement. Bon, alors, donc, avec une touche pour les informations, une touche pour les romans lus, parce que les vieilles personnes, moi, je l'ai vu avec maman, ils adorent lire, ils adorent les histoires, mais quand ils peuvent plus lire, ben, je lui ai acheté des centaines de CD, et il faudrait dans cette radio qu'il y ait effectivement une touche pour les romans.
Les audio-livres, ouais, les livres audio.
Et puis la troisième pour la musique, mais là encore, une musique adapté. Ça ne veut pas dire uniquement passer un vieux bal musette, ça peut aussi être une musique moderne, mais adapté. On s'adapte bien aux enfants, eh bien, il faut s'adapter aux vieilles personnes, pas en les considérant comme des diminués, mais en s'adaptant à leur goût.
J'ai l'impression que vous tenez un projet, Francine.
Mais je l'ai présenté, je suis très déçue. Voilà. Mon projet de poste de radio, je l'ai présenté au moins à 3-4 personnes qui ont dit « Oh, mais comme c'est intéressant !» Vous savez, quand les gens vous disent « Comme c'est intéressant !» Vous pouvez être tranquille qu'il n'en sort pas grand-chose. La jeune pousse, là, on voit ça en ce moment, puisqu'on est au début du printemps. La jeune pousse, il ne faut pas s'en occuper. Il faut juste éviter qu'elle gèle. Là, il y a eu un petit coup de froid, il y a des trucs congelés. Mais sinon, vous lui foutez la paix. Elle pousse de toute façon. La jeune pousse, elle pousse. Mais la vieille branche, si vous trouvez qu'elle est belle, il faut éviter qu'elle se casse. Il faut éviter, il faut la protéger un peu plus. Protéger les vieux.
Et vous, comment vous envisagez cette vieillesse qui vient ?
J'envisage pas.
Ouais. Mais pourtant, vous allez un pas devant l'autre, mais sans l'envisager.
Pas devant l'autre. Un pas devant l'autre. Un pas devant l'autre. Non, je savais, depuis deux jours, je me dis, elle va me parler de la mort, il va falloir que je lui réponde sur la mort, parce que c'est son obsession.
C'est vrai. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai accepté de faire ce podcast, pour pouvoir parler de la mort avec.
Alors, non, la mort, elle me fait... Est-ce qu'elle vous fait peur, la mort ? La mort, elle me fait peur pour les gens que j'aime et qui m'entourent. Oui, ça me fait peur. Pour soi-même, je trouve qu'on ne se rend pas trop compte. Alors, et puis quand j'y pense, ben, je pense à autre chose.
Voilà, c'est une technique qui marche bien.
Une technique qui marche pas mal. Mais par contre, oui, l'angoisse, c'est quand on a des gens autour de soi qu'on aime, qui sont ou fatigués, ou vieux, ou malades, et qu'on sait qu'ils vont partir. Ça, c'est dur, je trouve. C'est dur.
Mais c'est pas un sacré ennemi, quand même, quand on est médecin, la mort. Enfin, je veux dire, est-ce qu'on n'entretient pas un rapport, de toute façon, toute sa vie avec la mort ?
Oui, bien sûr, c'est un ennemi. C'est l'ennemi public numéro un, bien sûr. On se bat contre.
Tout en sachant qu'on va perdre à la fin.
Oui, mais au moins, quand on est en responsabilité, on essaye de la gagner. Si, la mort, c'est l'ennemi, bien sûr, pour le médecin. Ben oui, nous luttons pour la vie. Hein.
Francine, j'ai une dernière question, et donc qui n'est pas « est-ce que vous avez peur de la mort ?» parce qu'on y a répondu, vous avez bien esquivé le moment. Comme ça, on va de l'avant, on ne regarde pas en arrière. Est-ce que c'était mieux avant ?
Peut-être, vous allez me dire. Non, mais on pourra analyser l'affaire, mais bon. Restons légers.
Et la réponse à la question que je vais poser, je la connais, c'est est-ce que c'était mieux avant ?
Non.
Non, forcément, ça ne peut pas.
Non, ben non. On a tendance, bien sûr, quand on vieillit, à dire « Ah, ben ça, c'était mieux. » Mais autre phrase de mon père, vous me disiez, citer une autre phrase, il dit toujours « Pour l'instant, le plus beau moment qu'on vit, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, le plus joli de tous, c'est celui qu'on vit. » Valeur l'instant.
Bah, on va terminer là-dessus, Francine.
Ah, je ne vous entends plus.
Ah zut, vous ne m'entendez pas ?
Ça y est.
Je recharge.
Je recharge.
Il y a un gars qui a dit « je m'en charge ». Je ne sais pas qui c'est, mais il est sympa.
Un immense merci à Francine Leca pour sa patience, donc deux fois. Vieille Branche est une émission de nouvelles écoutes présentée par Marie Misset, mixage Laurie Galigani, réalisation, coordination et prise de son, Marine Rowe. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles sur Apple Podcasts, à nous suivre et à nous écrire sur Twitter @_vieillebranche ou alors sur Instagram @vieillebranchepodcast.
À bientôt dans Vieille Branche.